Il y a plusieurs choses en jeu. Il y a d'abord le fait quand même que l'État nigérian est relativement faible, il est autoritaire mais faible, et qu'il gère assez mal ses forces de sécurité. Nous, on a calculé que dans plus de la moitié des cas où il y a déjà eu des violences mortelles, par exemple dans des conflits communautaires, quand vous envoyez la police ou l'armée au Nigeria, dans plus de 50% des cas, l'armée tire et tue. Alors là, il y a aussi un point important à noter, c'est que si le mouvement Boko Haram s'est autant radicalisé, il a même versé dans la violence terroriste, c'est aussi beaucoup dû, quoi qu'il en soit par ailleurs, de ses connexions internationales avec la mouvance djihadiste du type Shabab ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais c'est aussi beaucoup dû à la répression des forces armées. Au départ, dans sa genèse, le mouvement Boko Haram n'est pas du tout un mouvement de lutte armée ou un mouvement terroriste.
Si je vous suis bien, il faudrait que l'armée nigériane se réforme, ou en tout cas la manière dont on lutte contre ces mouvements soit plus acceptée par la population pour, d'une certaine manière, déjà affaiblir le mouvement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait bien dans les stratégies de contre-insurrection que tirer dans la foule, créer des martyrs, c'est vraiment pas une solution. Ça a plusieurs effets négatifs, dont l'un qui est effectivement de radicaliser l'adversaire, de le plonger dans la clandestinité, donc il est encore moins saisissable, alors qu'avant, finalement, Boko Haram avait pignon sur rue. À un moment, ils avaient même un ministre dans le gouvernement régional du Borno, qui est leur fief, cet état de la fédération nigériane qui est frontalier du Tchad, donc on pouvait parfaitement discuter avec Boko Haram. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le gouvernement a fait son mea culpa en disant qu'effectivement, l'armée avait été beaucoup trop loin dans la répression de Boko Haram à Maïdougouri en 2009. Le problème, c'est que c'est un petit peu trop tard, parce que maintenant, et ça c'est un deuxième effet pervers de cette répression brutale, c'est que le mouvement est très éclaté. Aujourd'hui, il n'a plus un chef comme autrefois, il y a plusieurs factions, dont certaines qui sont directement, visiblement, connectées à la mouvance djihadiste internationale, avec des modes opératoires qu'on n'avait pas avant au Nigeria. Par exemple, les attentats suicides.
Certains ont agité le spectre d'une guerre civile, carrément. Est-ce que c'est un scénario crédible, selon vous ?
Absolument pas, selon moi, pour plusieurs raisons. D'abord, l'islam que professe Boko Haram, qui ne répond pas non plus au modèle wahhabite d'Al-Qaïda, mais c'est en tout cas pas du tout les pratiques de l'islam de la très très grande majorité des musulmans du nord du Nigeria, ça c'est une première chose. Donc il y a peu de chances quand même que Boko Haram devienne un vrai mouvement de masse. Il y a ensuite toute une structure de l'État au Nigeria qui fait que les guerres de sécession du type Biafra à la fin des années 60 ne sont plus possibles aujourd'hui, parce qu'il y a des interdépendances politiques et économiques très fortes entre les États qui composent la fédération du pays, qui font que ce type de séparation, d'éclatement de ce pays continent qu'est le Nigeria n'est plus possible aujourd'hui. Je ne crois vraiment pas à la possibilité d'une guerre civile, y compris sur une ligne de fracture qui verrait s'opposer les chrétiens du Sud et les musulmans du Nord. En revanche, ce qu'on voit et ce qui m'inquiète moi sur Boko Haram, c'est effectivement ce mouvement, disons, réveille toutes les théories du complot qui sont très souvent évoquées au Nigeria. Pour le Sud, Boko Haram, c'est un mouvement qui serait commandité par des hommes politiques musulmans du Nord pour discréditer un gouvernement qui est aujourd'hui présidé par un chrétien du Sud, le président Goodluck Jonathan. Et pour le Nord, au contraire, Boko Haram est une manipulation des chrétiens du Sud pour discréditer le Nord et finalement justifier une séparation qui verrait les régions les plus riches, notamment en pétrole du Sud, de pouvoir légalement faire ses sécession. Donc vous voyez, on est plutôt dans le réveil de fantasmes, à la fois sur la guerre sainte au Nigeria, sur les clivages religieux, et tout ceci est certainement inquiétant pour la sérénité de la gestion politique de ce pays.